temps, nous pouvons le servir, l'adorer librement, encore. Et on veut réaliser la grâce que nous avons de connaître le Dieu Tout-Puissant. Et des fois, c'est bon de s'arrêter, de réaliser combien Dieu est grand. Ça fait minimiser nos problèmes, ça nous fait réaliser que même si nous, parfois, on a l'impression que les choses nous échappent, mais à lui, rien ne lui échappe. Amen. Voilà, on espère que vous allez bien et que vous vous réjouissez dans le Seigneur. Voilà. La Bible dit « Réjouissez-vous toujours ». Si on s'arrête là, on se dit « C'est pas possible ». Mais après, c'est dit « Dans le Seigneur ». Ah là, on dit « C'est possible ». Amen. Voilà, et j'aimerais dire, si tu regardes à ton passé, tu donneras du pouvoir à ton passé sur toi-même et sur ton cœur. Mais si tu regardes aux paroles de Dieu, tu donneras du pouvoir à Dieu sur toi, sur ta vie, sur ton cœur. Alors, c'est important de regarder. L'endroit où nous regardons détermine ce que nous allons vivre dans notre cœur. Amen. Ensemble, on va ouvrir la Bible dans Nombre chapitre 32. Nombre chapitre 32. Voilà, nous lisons à partir du verset 1er. Nombre 32, à partir du verset 1er. Il est dit « Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux, et ils virent que le pays de Jézer et le pays de Galaad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et des princes de l'assemblée, et ils leur dirent, Ataroth, Dibon, Jaézer, Nimra, Esbon, Éléalé, Sébam, Nebo et Béon, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre pour des troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fait point passer le Jourdain. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben, « Vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici ? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne ? Ainsi firent vos pères quand je les envoyais à Kadès-Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Escol et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. » La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là et il jura en disant « Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jéphunné, le Kénizien, et Josué, fils de Noun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les fit errer dans le désert pendant 40 années jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et voici, vous prenez la place de vos pères comme des rejetons d'hommes pécheurs pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Car si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël au désert et vous causerez la perte de tout ce peuple. Amen. » Voilà, un petit peu contextualiser ce texte. Nous sommes au moment où la génération qui a, comme on l'a lu, qui n'a pas cru, est morte. Il ne reste plus que Moïse. Il n'y a plus que Moïse qui doit partir et pour que la nouvelle génération entre dans le pays promis. Et dans ce contexte-là, si on revient un petit peu plus en arrière, nous nous souvenons que le peuple d'Israël avait été toute sa vie dans l'esclavage durant 430 ans. Ils vont sortir de l'Égypte sous la conduite de Moïse. Moïse va les sortir de l'Égypte par la puissance de Dieu. Et Dieu avait promis un pays, le pays de Canaan. Dieu avait une promesse qu'il avait faite. Un pays où coule le lait et le miel, un pays aussi où il y avait des ennemis à renverser. Et nous savons qu'à la sortie de l'Égypte, le peuple s'est retrouvé dans le désert. Et dans ce désert, ils ont erré, tourné, et leur cœur était dur, ils se plaignaient, et ils vont être rebelles à Dieu. Leur cœur ne va pas se tourner vers Dieu, malgré la patience de Dieu, malgré tout ce que Dieu faisait pour eux. On arrive à ce moment où nous savons, l'Écriture dit qu'ils ont vu le pays, ils ont donné, on l'a lu, ils ont donné une description incrédule, plein de doutes, et ils ne sont pas entrés. Et là, nous avons lu ce que les fils disent, et il est parlé là des fils de Ruben et des fils de Gad, qui en fait demandent à Moïse, il leur dit, voilà, ils ont quand même remporté des victoires avant d'aller dans le pays promis. Et là, ils demandent, voilà, nous, on a vu que cet endroit-là, bah, il est bon pour nos troupeaux. Donne-nous cet endroit-là. Et finalement, bah, nous, ce n'est pas grave. Il n'y a pas besoin qu'on passe le Jourdain, qu'on aille conquérir le pays promis. Et, vous, et puis, on a la réponse de Dieu. Et ce matin, nous allons un petit peu méditer tout cela. Alors, à la fin, parce que je ne vais pas trop en parler, mais à la fin... Les fils de Ruben et de Gad vont dire « Ok, on va monter avec nos frères. » D'accord ? Et à ce moment-là, Dieu va être favorable. Alors, la première chose que j'aimerais voir, c'est que parfois dans notre vie, comme ces hommes, nous pouvons commencer à avancer vers Dieu, vers le plan de Dieu, vers la promesse de Dieu, vers ce que Dieu a prévu. Et puis, nous avançons. Et puis, à un moment donné, eh bien, on peut se détourner de ce que Dieu a pour nous, de la promesse de Dieu, finalement pour quelque chose d'inférieur. Parce que peut-être ben, Dieu répond à mes besoins. Peut-être, voilà, si Dieu répond à mes besoins, ben, ça ira, quoi. Il n'y a pas besoin de plus. Hein, des fois, on est là dans notre vie, comme eux, et dire, ben, là, pour nos troupeaux, pour nos besoins, cet endroit, ça nous va très bien. On est prêt à laisser la promesse de Dieu, on est prêt à laisser ça de côté, et juste que tu nous donnes ça, ça ira. Et des fois, on est comme ça dans nos vies, on expérimente Dieu, c'est formidable, et puis on se dit, ben, c'est bien, ce que j'ai expérimenté, c'est bon. Ma famille est bénie, mon travail est béni, c'est bon, on peut s'arrêter là, et on ne va pas plus loin. Vous savez, la foi en Jésus et le fait de vivre pour Dieu, la volonté de Dieu, le plan de Dieu, c'est une vie à son image. C'est une vie qui est abondante. Moi, j'aime dire que le plan de Dieu, eh bien, c'est un plan qui est à la grandeur de Dieu. Et on va voir que parfois dans nos vies, on peut se dire, c'est bon, ça va, ça suffit. Voilà, bénis-moi, Seigneur. Et si je suis béni, ça suffit. Je n'ai pas besoin de te suivre, d'aller conquérir je ne sais pas quoi. Non, je n'ai pas besoin. Ça suffit. Parfois, on expérimente Dieu et Dieu fait de grandes choses et on est heureux et même peut-être on commence à marcher pour le connaître, pour le servir et puis on s'arrête en chemin. On n'est pas encore entré dans la promesse, on n'est pas encore entré dans son plan, on n'a pas encore vécu ce qu'il nous a dit, mais parfois on est prêt à dire « c'est pas grave, on va s'arrêter là ». On va s'arrêter là. Ça ira pour nos troupeaux, ça nous suffit, on n'a pas besoin de plus. Mes besoins, mes troupeaux, ma maison, ma famille, mon travail, mon service, ça va. Juste cette bénédiction, ça ira, je n'ai pas besoin de plus. Dans mon témoignage, bon, ben, y a telle personne qui a été touchée, mais c'est bon, on peut s'arrêter là. Dans mon caractère, bon, y a quand même ça qui a changé, mais c'est bon, on va s'arrêter là. Dans la puissance de Dieu, ah, j'ai vécu une fois, tel jour, en telle année, Dieu qui a manifesté sa puissance, c'est bon, on peut s'arrêter là. Dans mon église, les gens viennent le dimanche matin, c'est bon, on peut s'arrêter là. Dieu m'a béni, m'a donné quelque chose, waouh, il est merveilleux, je suis béni, c'est bon, on peut s'arrêter là. Dieu m'a sauvé, il m'a ouvert le ciel, c'est bon, on peut s'arrêter là. Ça va, vous ne dites pas amen, c'est que vous suivez. Et dans Nombre 32, verset 5, c'est ce qu'ils disent. Et ils disent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fais pas passer le Jourdain. Ne nous fais pas passer le Jourdain. Et c'est intéressant parce qu'ils ne veulent pas passer le Jourdain. Et quand on regarde la Bible, derrière le Jourdain, il y avait le pays promis. Mais il y avait aussi des combats. Le premier combat après le Jourdain, vous savez ce que c'est? Ah, ça va, il y en a qui lisent la Bible. Jéricho. Amen. Et Jéricho, c'était, oui, une grande victoire que Dieu avait prévue, mais c'était aussi un grand combat, une grosse muraille. Une muraille très épaisse. Et quand Dieu va donner la promesse à Moïse, et quand il va dire, parce que Moïse l'a dit au peuple, « Oui, je viens pour te délivrer de la main des Égyptiens. » Là, ils ont dû dire « Amen ». Je viens pour te faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. » Là, ils ont dû dire « Amen ». Dans un pays où coule le lait et le miel. Là, ils ont dû dire « Amen ». Mais quand il a dit « dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phériziens, les Éviens et les Jébusiens », ils n'ont pas dû dire « Amen ». Ils ont dû se dire « Ah !» Eh oui, Dieu a des plans, Dieu a des promesses, mais dans les plans et les promesses, tu as des combats. Tu as des combats. Il y avait plein d'ennemis, on les a cités. Plein d'ennemis. Mais Dieu voulait manifester sa gloire. Comment Dieu peut manifester sa gloire s'il n'y a pas d'opposition ? S'il n'y a pas d'opposition, notre humanité suffit. Mais Dieu veut manifester sa gloire. Et c'est vrai, j'aimerais dire, si tu, pour chacun d'entre nous, que tu sois chrétien ou pas chrétien, Dieu a des promesses pour toi. Dieu a un plan sur ta vie. Et ce plan, c'est une grande bénédiction. Mais c'est aussi des combats pour que tu puisses voir sa grande puissance et son grand amour. Amen. Et oui, nous sommes appelés à vivre le royaume de Dieu sur la terre, au milieu de nous, afin que des hommes et des femmes rencontrent Dieu, connaissent Dieu, soient sauvés. Et le royaume de Dieu, c'est quoi ? Le royaume de Dieu, c'est la sainteté. C'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la provision, c'est le secours, c'est la puissance, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. C'est tout cela, le royaume. Mais vous voyez, quand tu dis guérison, ça se manifeste quand il y a de l'opposition, la maladie. Quand tu dis délivrance, c'est qu'il y a aussi l'ennemi qui veut lier. Quand tu dis sainteté, c'est qu'il y a aussi ce péché qui veut nous avilir. Et nous le savons, l'Écriture dit dans la Nouvelle Alliance, Jésus est la porte qui nous a ouvert le ciel, qui nous réconcilie avec Dieu. Et c'est tellement merveilleux, mais aussi qui nous permet de vivre la vie du royaume de Dieu au milieu de nous. Le pays promis n'est pas le ciel. Le pays promis, c'est la vie de Dieu sur la terre, là où domine le diable, là où le péché est plus fort que les êtres humains. Comment faire pour finalement voir cette promesse s'accomplir ? Il nous faut accepter de passer le Jourdain. On veut être béni, mais on ne veut pas la promesse de Dieu, parfois à cause des combats. Ça va nous mettre inconfortables. C'est vrai, vouloir finalement que Dieu accomplisse ce qu'il dit sur nous, quand Dieu dit, voilà, tu peux tout par Christ qui te fortifie. Accepter ça, ça veut dire que si je me sens toujours incapable, c'est accepter les combats qui vont avec. Et de dire non, je veux que la parole de Dieu puisse s'accomplir. À la Pentecôte, des hommes et des femmes étaient là et ils voulaient plus. Ils étaient là et ils priaient, ils étaient là en fait, ça c'est intéressant, ils étaient là tout simplement parce que Jésus leur avait dit d'être là. Et vous voyez, aujourd'hui, si nous voulons aller au-delà du Jourdain et vivre les promesses de Dieu, ben c'est parce que c'est Dieu qui le veut. Ce n'est pas parce qu'on a un désir de puissance ou un désir de... Non, c'est juste parce que c'est ce que Dieu veut. C'est un Dieu abondant qui désire que nous vivions l'abondance. Et c'est ce que Jésus voulait, vous allez rester là et je vais envoyer le Consolateur. Et c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, quand Jésus leur dit ça, il y a des combats qui sont là. Et en fait, Jésus leur dit, en gros, vous allez aller par tout le monde. Mais en fait, si tu regardais à l'époque, il y avait des combats. D'ailleurs, avant que Jésus paraisse ressuscité, ils étaient dans la peur, enfermés. Ils étaient dans la crainte. Et Jésus leur dit, non, vous allez vous retrouver, vous allez écouter, j'ai des plans, j'ai des promesses. Je veux que l'évangile aille par tout le monde. J'ai quelque chose qui est grand et qui vous dépasse. Et quand Jésus s'est montré ressuscité à plus de 500 frères et que dans la Pentecôte, tu n'en vois plus que 120, ils sont où les 380 ? Et c'est toujours comme ça dans la parole de Dieu. Mais il y en avait 120 qui ont dit, on va vivre pour ce que Dieu nous a dit. Ce que Dieu nous a dit. On ne vivra pas en dessous de ce que Dieu veut pour nous. Même s'il y a des combats, même s'il y a les Romains, même s'il y a les religieux qui ont arrêté Jésus et qui l'ont crucifié. On va se lever et on va aller sur la parole de Dieu pour vivre ce que Dieu a dit pour vivre ce que Dieu a prévu. Amen. Et ils se sont retrouvés là, et le Saint-Esprit les a remplis, ils ont été baptisés de l'Esprit, un esprit de force, et la vie de Dieu s'est communiquée, et le Seigneur a ajouté les âmes à l'Église, et une grande joie était au milieu d'eux, et ils prenaient le pain et le vin dans la joie, ils venaient aussi à l'heure de la prière chaque jour, et ils avaient un tel amour qu'ils vendaient leurs propriétés pour donner à ceux qui n'avaient pas. Il y a quelque chose de surnaturel. Mais parce qu'il y en a 120 qui ont décidé d'aller au-delà. Et de dire, je ne m'arrêterai pas dans ma vie chrétienne aux obstacles, aux oppositions, à ce que je vois devant moi. Je ne vais pas m'arrêter là, je ne vais pas mourir dans le désert. Mais je vais passer le Jourdain. Amen. Je ne vais pas vous demander de dire Amen comme dimanche dernier. Amen. Et c'était intéressant parce que vous savez, le Jourdain, c'est le symbole de la mort. Passer le Jourdain, c'est quelque part accepter la mort, pas n'importe quelle mort, la mort de la chair. La mort de vivre par ce que je vois. La mort de marcher selon ce que je ressens et ce que je pense. La mort de la chair, de l'humain. La vie chrétienne est terrible quand tu la vis par toi-même. Elle est hyper frustrante et difficile. Mais il y a besoin de mourir, et la Bible dit qu'à la croix du calvaire, oui, Jésus est mort, mais nous sommes morts avec lui. La mort de la chair, et cette mort de la chair, elle est afin que l'Esprit de Dieu agisse. Parce que l'Esprit et la chair ne peuvent pas agir en même temps. Et les choses que Dieu veut faire dans ta vie, les grandes choses, les promesses, les plans, ce qu'il dit, eh bien, il veut le faire, mais pour le faire, il te fait passer par la mort. Et nous, on est embêtés, êtres humains, parce que nous, souvent, dans notre approche de Dieu, on a nos problèmes devant nous, et tout ce qu'on veut, c'est que Dieu règle nos problèmes. Mais Dieu, lui, voit autre chose. Il voit ce qu'il y a en nous qui empêche Dieu de se manifester. Et donc, oui, il veut régler les problèmes, mais il veut d'abord régler ce problème en toi, le fait que tu marches selon la vue, tu marches selon ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que les gens disent. Tu marches comme tu étais avant d'être chrétien. Et tu as besoin de comprendre qu'il faut passer par le Jourdain, il faut passer par la mort pour que le Saint-Esprit fasse ce que moi je ne peux pas faire. Mais si je ne veux pas passer par la mort, si dès que je demande à Dieu que ça ne marche pas, je me décourage, je reviens en arrière, eh bien je ne peux pas vivre ce que Dieu a prévu pour moi. Sache une chose, c'est que quand tu pries, quand tu demandes et que ça ne marche pas, c'est tout simplement parce que Dieu veut prendre plus de place en toi. C'est quand ça ne marche pas que tu vas aller plonger tes regards dans ce que Dieu dit. Que tu vas commencer à prier en esprit. Parce que quand tout marche, tu n'as pas besoin de lire la Bible et de prier en esprit. Mais quand ça ne marche plus, quand la chair ne fonctionne pas, quand tu essaies de vivre ta vie chrétienne par tes propres forces et que tu te rends compte que c'est que de la confusion, soit tu abandonnes, tu t'arrêtes comme ces fils de Ruben et de Gad, c'est bon, on s'arrête là, ça nous va. Ou soit tu vas plus loin. Amen. Que le Seigneur nous aide. On n'est pas là pour se faire plaisir, on est là pour vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Ni plus, ni moins. La Bible dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Dans l'Ancien Testament, vous voyez qu'il y avait une femme, elle voulait un enfant. Elle dit, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Et ça, dans le temps. Et il n'y avait pas d'enfant. Elle aurait pu dire, Dieu n'existe pas, il ne donne pas d'enfant et c'est fini. Mais elle laisse une mort prendre place. Elle dit, cet enfant, c'est plus pour moi, cet enfant, je te le donne. Je refuse maintenant de demander quelque chose pour moi. Je te le consacre, je te le donne. Quand elle a fait ça, l'enfant est venu. L'enfant est devenu prophète. Il a sauvé le peuple, il a amené le peuple dans la victoire et Dieu lui a donné d'autres enfants. Mais il a fallu, elle aussi, qu'elle passe par le Jourdain, qu'elle accepte une forme de mort. Parfois, on demande plein de trucs, on ne réalise pas qu'en fait, c'est pour nous, que c'est par nous. Mais nous avons besoin de nous abandonner au Seigneur entièrement. Amen. Quand Jonas a préféré garder sa vie plutôt que d'obéir à Dieu, quand il a voulu garder sa vie, il a failli la perdre. Il voulait aller à Tarsis, il a fini dans l'eau, dans le ventre d'un poisson. Quand tu veux mener les choses par toi-même, contrôler les choses, la chair, je l'ai dit dimanche dernier, l'affection de la chair, c'est la mort. Et dans la chair, il y a le bien et il y a le mal. La Bible parle de la chair, de toutes les œuvres de la chair, l'impureté, l'impudicité, les sectes, la colère, les jalousies, toutes ces choses-là. Mais il y a aussi le bien. Le bien, c'est je veux faire des bonnes choses, mais c'est l'humanisme sans Dieu. Eh bien ça, peut-être que tu as du mal à l'accepter, mais ça amène la mort. Ça amène pas la vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la réponse de Dieu ce matin. Qu'est-ce que Dieu a répondu quand ses fils ont dit « Nous, on ne veut pas passer le Jourdain. Nous, on veut juste avoir cela et on ne veut pas passer le Jourdain. » On va voir deux choses. Première réponse, Nombre 32, verset 7. « Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne ?» Voilà la réponse de Dieu. Dieu dit « Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne ?» Oui, en effet, en fait, Ruben et Gad, il faut comprendre, c'est des tribus. Il y a plein de personnes qui sont là. Et eux, ils disent « Nous, on veut ça et vous, allez conquérir. » Ça voulait dire qu'ils allaient conquérir avec deux tribus en moins. Et donc, Dieu dit « Mais si vous faites ça, vous allez décourager les autres. » Parce que les autres qui veulent aller dans le pays promis, qui veulent passer le Jourdain, il y a un combat qui est là. Et ce combat, ils ne veulent pas le vivre tout seuls. Ils veulent que vous soyez là avec eux. Maintenant, écoutez bien. Quand tu décides de t'arrêter là où tu es, quand tu décides de ne pas aller plus loin, de ne pas vivre pour ce que Dieu dit, même si ce que Dieu dit te met mal à l'aise et vient faire des changements en toi, eh bien, tu décourages les gens qui sont autour de toi. Tu amènes un mauvais témoignage et une confusion dans le cœur des gens. Quand tu dis « Dieu est puissant, je suis chrétien, mais moi dans ma vie, je ne crois pas dans la puissance, je ne veux pas aller jusque-là », tu amènes la confusion dans la vie de ceux qui t'entourent. Tu amènes un mauvais... Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne veulent plus de Dieu, ils ne veulent pas venir à l'église. Parce qu'ils ont vu des chrétiens qui sont comme ça, qui ne veulent pas passer le Jourdain. Et moi, je ne veux pas être de ceux-là. Mais je veux pouvoir dire « Seigneur, je ne veux pas... » des trucs extraordinaires, je veux juste ce que tu as prévu. Mais le juste ce que tu as prévu est bien plus grand que ce qui est humain. C'est comme si tu faisais une recette, tu dis, venez à la maison, je vais vous faire un gâteau, une recette fabuleuse, faite par Claudine. Non, je rigole. Et vous arrivez, et puis là, tu commences la recette, mais juste la dernière étape, tu ne la fais pas. Cuire le gâteau. Et tu sers ça à tes invités. Mais tu vas les amener dans la confusion. Ils vont manger le truc tout mou, là. Ils vont dire, c'est ça ta super recette. Ils vont dire, dis donc, ta recette, elle n'est pas terrible. C'est pas la recette qui n'est pas terrible. Le problème, c'est qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. On a besoin, dans notre vie chrétienne, de continuer, de marcher et de vivre ce que Dieu a prévu. Et même s'il y a des moments où on n'y arrive pas, mais vous rassurez-vous, Dieu parle. Si tu n'y arrives pas, cherche Dieu, il va te parler. Amen. Mais c'est terrible quand on s'arrête là, on décourage les autres. Les autres disent, il est dit que Dieu guérit, Dieu fait ça. Mais tu regardes autour de toi, lui, il ne croit pas, il a abandonné. Lui, il est... Oh là là, c'est ça Dieu ? Non, c'est pas ça Dieu. Mais nous, on a toujours un choix. On a toujours un choix. Le nom de chrétien aujourd'hui, ça veut dire christianiser. Alors qu'on a un peu une morale chrétienne. Mais dans la Bible, le nom chrétien, ça veut dire d'être comme Christ. Ça veut dire qu'on amène la saveur de Christ. Et c'est quoi la saveur de Christ? La puissance, l'amour, la sainteté. C'est trois principales caractéristiques. La Bible dit on est le sel et la lumière. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Et le sel évite la corruption et le sel donne la saveur. Mais si moi, en tant que chrétien, je m'arrête avant le Jourdain et je ne laisse pas finalement Dieu faire cette œuvre de mort où j'apprends à ne pas vivre selon ce que je vois, ce que je ressens, ce que je pense, selon tous ces mensonges que le diable vient semer en moi, si je n'apprends pas à vivre, je suis le sel qui donne aucune saveur. Pourquoi ? Parce que si je refuse ça, je vis comme les autres. Je vis comme les gens qui n'ont pas Dieu. Alors, je me dis chrétien, mais dans mes actes, je fais comme les non-chrétiens. Donc, je suis le sel, mais je n'amène pas de saveur. Donc, je crée la confusion. Alors que j'étais censé amener la saveur du ciel. la saveur du royaume. Est-ce que vous me suivez ? On évite la corruption. Quand nous sommes le sel, nous ne vivons pas notre vie comme avant, comme tout le monde. Nous vivons notre vie selon la parole de Dieu, cette parole qui est sage parce que c'est Dieu lui-même qui nous l'a donnée. Mais si je ne laisse pas le Seigneur faire cette œuvre et que je continue de vivre comme les gens qui n'ont pas Dieu, tout en disant que je suis chrétien, je crée la confusion, un mauvais témoignage. C'est quoi la saveur ? La saveur, c'est l'amour vrai dans le couple et la famille. C'est la droiture dans le travail. C'est la paix dans les problèmes. C'est le pardon dans les relations. C'est la guérison face à la maladie, la délivrance face au tourment, le soutien de Dieu quand je ne vois pas encore la délivrance et la guérison. La provision face au manque, la joie dans l'épreuve, la patience dans les problèmes, la maîtrise de soi dans les tentations. C'est ça la saveur. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait en nous. Et quand je vais jusqu'au bout, je poursuis la promesse, eh bien, ces choses se manifestent dans ma vie. Pas parfaitement, on a toute notre vie pour progresser, mais progressivement. Je porte le nom de chrétien, mais je veux en vivre la réalité. Parce que le monde, il goûte. Est-ce qu'il y a une saveur ou pas de saveur ? Amen. Quand tu vas jusqu'au bout, quand tu crois la parole de Dieu, le Saint-Esprit agit dans ta vie pour que tu aies la saveur et l'odeur de Christ. Amen. On est la lumière, on est censé éclairer pour que les gens voient qu'il y a un Dieu, qu'il y a un amour réel, une sainteté, une puissance possible qui nous rend heureux. Mais si je suis la lumière mais que je vis dans les ténèbres, alors je crée la confusion. Et c'est préjudiciable. Le choix que tu fais de ne pas vouloir plus dans ta vie chrétienne est préjudiciable pour ceux qui t'entourent. Mais le choix que tu fais, oui, d'affronter les ennemis, d'avancer malgré les combats, de passer le Jourdain, de laisser Dieu te travailler, eh bien, c'est permettre aux gens autour de toi de voir Dieu. Amen. Sa victoire permet à ceux qui t'entourent de goûter au lait et au miel. Amen. Et je souhaite qu'à l'église d'Albi, eh bien, nous ne nous arrêtons pas. Que quand les gens viennent ici, ils voient Dieu. Mais vous savez, ils ne verront pas Dieu dans les murs, hein, vous avez, c'est pas là. Ils verront Dieu si dans notre cœur, nous désirons passer le Jourdain. Si dans notre cœur, nous continuons de venir devant lui, de nous nourrir de lui, nous continuons de l'aimer, de le servir, nous continuons de lui faire confiance quand nous ne comprenons pas ce qui se passe, parce qu'il est en train de travailler en nous. Vous savez, avec l'épreuve qu'on traverse dans notre famille, ça nous a fait un coup sur la tête de savoir que notre fille de 4 ans, elle a une maladie incurable jusqu'à la fin de sa vie avec des traitements. Mais vous savez, ça nous amène à quoi ? Ça nous amène, à cause de l'amour, ça nous amène en fait à combattre. Ça nous amène à dire, oui, qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. Ça nous amène en fait, dans nos retranchements, à finalement, ben, oui, ne pas rester au même point, mais de venir dans la présence de Dieu et dire « Seigneur, Seigneur, glorifie ton nom. » Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Accepter de passer le Jourdain. Accepter la mort de la chair. Mourir à l'impureté sexuelle. Mourir à la magie, aux critiques, aux divisions, à la colère, à l'orgueil, à l'égoïsme dans le couple, aux mensonges, au travail au noir, à la jalousie, à la convoitise de vouloir toujours plus, à l'amertume à cause de l'injustice, aux envies, aux excès de table, à l'alcool, aux addictions, à la cigarette, aux jeux, à l'avarice, au fait de ne pas donner, à ce qui détruit notre corps et notre relation, aux sectes, aux idolâtries, à des pratiques religieuses qui se disent spirituelles et qui en réalité prennent la place et ouvre la porte aux démons. Est-ce que je laisse le Seigneur ? Est-ce que j'accepte de laisser le Seigneur faire mourir ce qui est de la chair pour que l'Esprit de Dieu puisse glorifier Christ ? Vous savez, la Bible dit clairement dans le Nouveau Testament, il ne peut pas y avoir la vie de l'Esprit, l'action de l'Esprit, si nous demeurons dans la chair. Et c'est la vie de l'Esprit qui vient vaincre la chair. Quand un homme, une femme, un chrétien essaye par lui-même de se changer sans venir à la source, eh bien, il n'y arrive pas. C'est comme je disais à un jeune cette semaine, si je te parle d'une pomme et maintenant je te demandais de ne pas penser à la pomme. Ne pense pas à la pomme. À quoi tu penses ? Tu penses à la pomme. Mais si je te dis pense à l'ananas, bien le fait de penser à l'ananas va te faire oublier la pomme. Et quand je commence à vivre la vie de l'esprit, quand je suis Dieu, quand je marche avec Dieu, je me nourris de Dieu, je sers Dieu, eh bien les choses de la chair perdent leur pouvoir. Tu ne dois pas t'arrêter au bord du chemin. C'est fini le temps de rester dans le sycomore et de regarder Jésus. Il est temps maintenant de descendre et de faire entrer Jésus dans ta maison. Il faut que tu arrêtes de regarder maintenant. Il faut que tu ailles plus loin. Il faut que tu t'engages. Il faut que tu le laisses agir en toi. Et je parle pour vous, mais je parle pour moi. Moi, le Seigneur m'a amené ici à Albi. Alors par sa grâce, je prie, Seigneur, sers-toi de moi pour amener quelque chose. Mais je comprends qu'il veut faire quelque chose en moi. Alors c'est la première parole. Ne vous allez pas faire ça parce que vous allez décourager le peuple. Et c'est important que tu l'entendes. Tu ne dois pas t'arrêter là dans ta vie chrétienne parce que tu vas amener de la confusion autour de toi. La deuxième raison, Nombre chapitre 32, verset 8, Dieu dira... C'est ce qu'ont fait vos pères quand je les envoyais de Kadès-Barnéa pour examiner le pays. Il leur dit, en fait, voyez ce que vous êtes en train de faire là, c'est ce qu'ont déjà fait d'autres avant vous. Et il va détailler, c'est ce qu'on a lu, tout ce qui va arriver. Ils ont fait cela, ils sont allés, ils ont vu le pays promis, ils ont vu les fruits abondants, mais ils ont vu aussi les ennemis. Ils sont revenus et ils ont découragé le peuple. Ils ont dit, oui, c'est vrai, c'est un bon et vaste pays, mais il y avait des ennemis. Ils auraient dû dire, il y a des ennemis, mais c'est un bon et vaste pays, et Dieu nous donne la victoire. Et à cause de cela, eh bien, la Bible dit, ils vont mourir dans le désert, sauf Josué et Caleb qui, eux, ont dit autre chose. On dit, emparons-nous du pays, montons, Dieu nous donnera la victoire. Et voilà, c'est ça que Dieu leur dit. En fait, Dieu leur demande d'examiner cette histoire. Et Dieu veut nous demande ce matin d'examiner cette histoire. Et pour qu'on comprenne que ce qui a fait la différence entre les 10 espions et Caleb et Josué, qui avaient pourtant, ils vivaient la même réalité, le même désert, après ils ont vu la même chose dans le pays promis, mais ils ont fait un choix différent et cela nous parle à nous ce matin. Certains, écoutez bien, n'ont vu que la réalité visible et plus que la réalité visible. Ils ont aussi accepté des pensées, parce que quand il dit qu'on était comme des sauterelles à nos yeux et à leurs yeux, mais qu'est-ce qu'ils en savent à leurs yeux? Ils sont allés leur demander. Même au contraire, on voit dans la Bible que les ennemis, ils avaient peur du peuple d'Israël. Donc, il y avait des mensonges qu'ils ont laissés. Si tu vis avec les mensonges, tu mourras dans le désert. C'est pas ce que Dieu veut. Mais Dieu veut que nous vivions avec ce qu'il dit dans sa parole. Et Dieu avait dit, je vais vous donner ce pays, là où il y a les ennemis. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, vous allez les renverser. D'ailleurs, Dieu leur dira, vous allez les renverser, ces ennemis. Il y a la réalité physique, il y a la réalité spirituelle. La réalité physique, c'est ce que je pense, ce que je ressens, appuyé sur ce que je vois. La réalité spirituelle, c'est ce que Dieu dit. Et Dieu nous demande, comme je l'ai dit dimanche dernier, on n'est pas perché, où on voit que la réalité spirituelle et on est dans les hauteurs. Dieu nous demande de considérer la réalité physique, mais de considérer aussi la réalité spirituelle. Amen. Et la réalité spirituelle dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, l'œuvre de Christ, ce que Christ a fait, c'est que Jésus est mort et ressuscité, il nous a tout donné. Donc soit je crois dans ce que je vois, et ce que je vois, c'est les œuvres des ténèbres. Moi, à chaque fois que je regarde les informations, je vois les œuvres des ténèbres. Des nouvelles, ça me fait mal au cœur. Soit je regarde à ce que je ne vois pas, ce que Dieu dit, et là, je permets l'œuvre de l'Esprit. Et c'est un choix que nous faisons tous. Soit je choisis la chair, soit je choisis l'Esprit. Si je mets ma foi dans ce que je vois, j'éteins l'Esprit. Si je mets la foi seulement dans ce que je vois, j'éteins l'esprit. Mais si je mets ma foi dans ce que Dieu dit face à ce que je vois, là je permets à l'esprit d'agir. Amen. Je ne dois pas m'arrêter finalement à ce que je vois. Parce que si on s'arrête à ce qu'on voit, on arrête d'être témoin. Quand tu témoignes, est-ce que les gens ils disent « Ah, tu as raison, je donne ma vie à Jésus, pardon Seigneur, je viens à l'église avec toi, ma vie change. » C'est ça que vous vivez. On aimerait, hein, moi j'aimerais. La majorité du temps, ce n'est pas ça. On pourrait s'arrêter. On pourrait dire tant pis, mais on dit « Seigneur, au travers de ça, il y a des choses qui meurent en moi. Viens manifester ta gloire. » Amen. Oui, le Seigneur va le dire, Dieu va le dire. Ma colère, la colère de Dieu s'enflamma. Ils ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham. Et c'est une réalité pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, je veux que tu croies ce que je dis. Même si ce que tu vois est contraire. Et c'est pour ça qu'on lit la Bible. Pourquoi on lit la Bible ? Les histoires, on les connaît. On lit la Bible parce que c'est la parole de Dieu et que cette parole, elle vient nous nourrir, elle vient nous toucher et elle permet au Saint-Esprit d'agir quand il y a la foi. Amen. Et on peut progresser, je peux progresser. C'est bon de lire un verset, c'est mieux si tu le crois. Cette semaine, je lisais que le Seigneur marche avec toi, il te donnera le repos. Voilà, c'est un verset. Je dis, Seigneur, tu marches avec moi. Et le fait de savoir que c'est toi qui marches avec moi, ça me donne le repos. Et je repasse ça face à ce qui, devant moi, ne me donne pas le repos. Suscite l'inquiétude, suscite les plaintes. Mais je dis, Seigneur, je m'appuie sur ce que tu dis. C'est un exemple. Vous avez tellement de paroles de Dieu, notre Dieu qui est bon, sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Amen. Vous savez, je l'ai déjà raconté, de 2003 à 2014, je n'ai vu dans l'œuvre de Dieu, j'étais chrétien, aucune guérison. Parce que dans mes pensées, dans mon cœur, je vivais selon ce que je voyais. Parce que je refusais de croire que Dieu guérit, parce que je ne le voyais pas. Et donc, comme je ne le voyais pas, ben, je ne le croyais pas. Alors oui, on dit qu'on le croit, mais au fond, je ne le croyais pas. Donc, je n'en ai pas vu. Puis en 2014, je me sentais sec, j'ai cherché le Seigneur. J'ai vraiment cherché le Seigneur, jeûné, prié, j'avais besoin de Dieu. Je ne cherchais pas du tout la guérison, ça ne m'intéressait pas. Hein. Je cherchais juste le Seigneur. Mais en cherchant le Seigneur, il a commencé à me parler sur les domaines dans ma vie où j'étais fermé. Pourquoi ? Parce qu'il voulait manifester sa gloire. Il a commencé à me parler et sa parole m'a bousculé en fait. Et j'ai accepté sa parole. Et j'ai commencé à laisser sa parole remplacer des raisonnements. Et ça, c'est ce que Dieu fait toute notre vie. Et quand sa parole a commencé à remplacer ses raisonnements, eh bien, cette parole, elle a commencé à se manifester dans la réalité. Et pour les premières fois de ma vie, j'ai commencé à voir des gens être guéris. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, tout simplement, on accepte dans son cœur de mourir au raisonnement, mourir à ce qu'on voit, mourir à tout ça, et on laisse la parole de Dieu vivre en nous. Amen. Et c'est un combat. Ça, c'est un exemple, la guérison. Mais il y a bien d'autres choses. Tu peux peut-être être là et te dire, mais moi, je suis un témoin, je ne sais pas parler. Moi, quand j'étais jeune chrétien, à chaque fois que je parlais de Dieu, je disais, ah, ce serait bien que je le fasse venir près du pasteur, comme ça le pasteur, il pourra lui parler, il parlera toujours mieux que moi. Alors maintenant, je suis pasteur, je ne peux plus le dire. Mais pourquoi ? Parce que, en fait, on croit des raisonnements, on croit des choses, ce qu'on ressent. Et ça, c'était lié à mon passé. Parce que dans mon passé, j'avais aucune confiance, c'était comme ça. Mais petit à petit, on laisse la parole, on croit la parole, et on permet au Saint-Esprit de changer les choses en nous. Et le Seigneur nous aide et nous bénit. Est-ce que c'est facile ? Non, pas toujours, parce que la chair est toujours là. Mais c'est possible. Alors moi, j'aimerais qu'on voit au milieu de nous des nouvelles naissances authentiques. On en voit, alléluia, gloire à Dieu. Mais on peut en voir davantage. Qu'on ait la sainteté authentique au milieu de nous. Des gens qui aiment Dieu, mais qui vivent selon sa parole. Un amour authentique, on prend soin les uns des autres. C'est le cas déjà. Et je disais dimanche dernier, j'étais béni par l'Église dans les difficultés qu'on traversait. Qu'on soit des disciples authentiques. Mais pour vivre tout cela, cela passe par ce que Dieu vient de nous dire. Nous devons accepter sa parole dans notre cœur. de la repasser dans notre cœur et d'aller dans le sens de cette parole. Et parfois, oui, faire un pas de foi dans le sens de cette parole, même si ce pas de foi me demande de virer, d'enlever des raisonnements qui sont là depuis des années, mais qui produisent la mort dans ta vie. Il vaut mieux que tu fasses un pas de foi, un pas de plus dans ce que Dieu dit, que de rester en arrière dans tes raisonnements. Amen. Notre référence, ce que, vers quoi nous allons, ce que nous voulons vivre, c'est le royaume de Dieu. C'est ce qui est au ciel, nous voulons le vivre sur la terre. C'est comme ça que Jésus nous a demandé de prier. Hein, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. C'est quoi le règne ? Le règne, c'est que sa parole prenne la place de mes raisonnements, qui bien souvent, sans que je m'en rende compte, sont des mensonges de l'ennemi. Que ça prenne la place. On ne comprend pas que ce qu'on croit a une incidence sur ce qu'on vit. Amen. Je terminais. C'est la première fois que je termine là. J'essaie de ne pas terminer trois fois. Mais je termine avec cette réalité que ensemble, nous avons une responsabilité. Dieu a un plan. Dieu a des promesses et Dieu a des victoires. Et voici le point qui est important. C'est que si je refuse de passer le Jourdain parce que je ne veux pas certains combats, je ne veux pas finalement me rencontrer les Cananéens, les Éthiens, tout ça. Si tu ne veux pas combattre pour la foi, tu auras des combats à cause de ton incrédulité. Mais les combats pour la foi produisent quelque chose qui glorifie Dieu. Mais les combats, à cause de ton incrédulité, ne produisent que la mort. Je préfère lutter pour ce qui vaut la peine que de lutter, finalement, pour rien. Refuser de croire, c'est rentrer dans des combats. Refuser le plan de Dieu, oui, c'est vrai, tu évites peut-être les Cananéens, tout ça, mais tu te prends le désert. Hein. La mort, leur vie, c'était quoi pendant 40 ans ? Manger, boire, parler, travailler, c'est tout. Partir, ils n'ont rien vécu. Ah, moi, je ne veux pas ça. Moi, je rejoins Frédéric qui nous disait il n'y a pas longtemps, je veux vivre et merci Seigneur pour tout ce qu'on a fait. Mais on ne regrette rien parce qu'on a fait pour le Seigneur. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci, on est dans une génération, on est hyper sollicité. Aujourd'hui, avec le téléphone, tu peux passer une journée entière sans t'ennuyer. Avec toutes les vidéos que tu peux voir, avec tous les profits, tout ce que les gens disent, toutes les informations que tu peux aller voir, et c'est pratique des fois, mais tu peux passer ton temps à faire ça, mais qu'est-ce que ça produit ? Qu'est-ce que ça amène ? Alors, il y a des fois où c'est utile. Tu as un truc cassé, tu as une vidéo, ça t'aide à réparer, super. Mais il y a des trucs, on s'en fiche de savoir à quel pays telle personne a fait ça. Il y a des choses, il faut les savoir, comme ça on prie. Hein. C'est important de savoir quand même quand il y a des catastrophes. Mais il y a des choses, est-ce que vraiment on a besoin de passer autant de temps ? Est-ce que ça ne serait pas mieux qu'on passe du temps à écouter le Seigneur, à repasser ce qu'il dit dans notre cœur ? Et aujourd'hui, c'est vrai, on est hyper sollicité. On pourrait vivre plan-plan, tranquille. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut, il y a les loisirs, la famille, les amis, voilà. Et c'est bien, mais le Seigneur a un plan. Moi, je crois que, vous savez, quand Dieu a un plan et qu'on n'est pas dans la bonne direction, eh bien, le Saint-Esprit te le fait ressentir. Et tu ressens qu'en fait, tu perds ton temps, en fait. Mais tu sais pourquoi tu ressens ça ? C'est parce que Dieu a quelque chose de supérieur et que tu es dans ce qui est inférieur. Mais si tu résistes, au bout d'un moment, tu ne sens plus rien. Mais on dit, Seigneur, moi je suis là sur la terre, j'ai 39 ans, eh bien je veux vivre pour ce que Dieu a prévu. Je ne sais pas ce qu'il a prévu. Ce que je sais, c'est ce que la Bible me révèle, c'est le royaume. Eh bien je veux vivre pour le royaume de Dieu. Et toi ? Amen. On incline nos têtes ensemble. Je demandais aux musiciens de revenir. Je voudrais faire un appel ce matin. Je voudrais vraiment prier. Ils ont quand même fait le bon choix. Ils ont dit, on ira avec vous. Ah, j'ai oublié, mais je vais quand même le dire. Quand le Seigneur leur a parlé, mais il leur a donné une autre parole. Il leur a dit, si vous faites ça, vous perdrez ce que vous voulez. C'est ce qui est écrit. Vous perdrez, et il y a la grâce de Dieu, vous serez avec les tribus. C'est ce que la Bible dit, vous serez avec, mais vous, vous n'aurez rien en fait. Vous n'aurez rien conquis, vous n'aurez rien gagné. Vous perdrez ce que vous voulez. Vous voyez, ce que tu veux là, peut-être ta bénédiction, donc ça tu le perdras. Et parce qu'il y a la grâce, tu seras quand même sauvé, tu iras au ciel. Et tu n'auras rien construit pour le Seigneur. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur, il a un plan pour toi, il veut se servir de toi. Et s'il te donne une promesse et qu'il y a des ennemis, c'est parce qu'il va les renverser dans ta vie. Alors faisons face à nos problèmes et disons, Seigneur, on veut traverser le Jourdain, c'est le titre du message. Aller au-delà du Jourdain et dire, je ne m'arrêterai pas dans ma vie chrétienne à ce que j'ai connu. Mais ce que je veux poursuivre, c'est le royaume de Dieu. Ce que je veux poursuivre, c'est ce que Dieu a prévu. C'est la référence, c'est ce que Jésus a dit de sa bouche. La référence ne sera jamais ce que les hommes disent, ce que ma chair me dit, ce que mes sentiments me disent, ce que mes pensées me disent. La référence, c'est ce que Jésus a dit et il a mis son esprit en moi. Si tu es loin de toutes ces choses, j'aimerais te dire que tu peux venir à Jésus qui est mort sur la croix et qui est ressuscité pour te pardonner, te sauver et te faire vivre une vie extraordinaire, une vie où tu découvres le plan de Dieu. Il n'y a rien dans ce monde matériel, financier qui peut combler ton cœur. Mais le plan de Dieu, la relation avec Dieu, ça peut combler ton cœur. Et si ce matin, tu es loin de Dieu, si ce que je suis en train de partager, ça te paraît être extraterrestre, j'aimerais te dire que c'est possible pour toi. Viens à Jésus, il a donné sa vie pour pardonner tes péchés, te réconcilier avec Dieu. Et toi, chrétien qui es là avec moi, on veut se lever et dire, Seigneur, on ne veut pas créer la confusion dans le cœur de ceux qui sont autour de nous. Nous sommes en chemin, nous ne comprenons pas tout, mais nous acceptons que Dieu agisse en nous et que nous apprenions à ne pas marcher selon la chair, mais marcher selon l'esprit. Oui, nous considérons ce que le Seigneur nous a demandé de considérer, ce qui s'est passé avec ces espions, et nous disons, Seigneur, c'est peut-être pas toujours facile, mais nous décidons de croire ce que tu dis, plutôt que de juste considérer ce que nous voyons. Nous voulons que le Saint-Esprit fasse de grandes choses et ça passe par là. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour l'exemple, Seigneur, de Ruben et de Gad. Merci de nous enseigner ce matin. Et tu fais de nous une église, Seigneur, qui cherche ce que tu nous as dit, ce que tu nous as révélé, ce pourquoi tu es mort, la victoire sur les démons, la victoire sur le péché, sur la maladie, sur la mort. Seigneur, de pouvoir refléter Christ dans son caractère et dans ses œuvres. C'est notre but. Et s'il faut traverser le Jourdain, Seigneur, nous l'acceptons. Nous préférons souffrir, Seigneur, pour ta gloire, que de souffrir à cause de notre incrédulité et de que cela produise la mort. Bénis mes frères, mes sœurs qui sont là ce matin et tu les encourages dans leur combat. Tu leur donnes de pouvoir s'appuyer sur ce que tu dis. Tu nous permets jour après jour de venir à toi. Nous te louons et nous te bénissons pour ce que tu fais. Amen. On reste dans la prière. Et j'aimerais faire un appel. Réellement, le Seigneur appelle quelqu'un ce matin, plusieurs personnes, à te lever, toi qui t'es arrêté au bord du chemin, qui as connu des choses dans le passé, à te lever. Et à poursuivre à nouveau ce que Dieu t'avait dit lorsque tu t'es converti. À poursuivre à nouveau ce que tu lis dans le Nouveau Testament, ce que tu ne vis pas encore dans ta vie. Et à dire, c'est vrai Seigneur, je ne peux pas, mais ce je ne peux pas s'est passé par le Jourdain. Et le Seigneur fait mourir afin de vivre la résurrection. Il n'y a pas de vie de résurrection sans mort. Alors si ce matin c'est ton désir, je t'inviterai à te lever à ta place. Seigneur, nous voulons aller plus loin. C'est ce que je veux pour ma vie. C'est ce que je veux pour l'Église. Et même s'il y a des luttes et des combats, même s'il y a les Cananéens, les Éviens, les Éthiens, les ennemis sont là devant nos yeux, eh bien nous y allons parce que tu nous as dit d'y aller. Nous y allons et nous marchons avec ta parole et tu vas renverser nos ennemis. On ne sait pas toujours comment les renverser, mais c'est toi qui l'as dit, Seigneur. Amen. Lève-toi si le Seigneur te parle. Reprends le chemin de la prière. reprends le chemin de la parole, mais reprends à nouveau ce que tu faisais avant, de croire et de repasser dans ton cœur ce que Dieu dit. Reprends le chemin de l'Église et continue de chercher le Seigneur, de te nourrir du Seigneur. Reprends le chemin du service. Et dans les domaines de ta vie, mets le Seigneur en premier. Dans ta famille, dans ton travail, dans l'Église, mets-le en premier, cherche-le. Amen. Amen. Et pendant que nos frères vont nous conduire dans un chant, vous qui êtes debout, je vais vous inviter à simplement déverser votre cœur et à prier. Et s'il y a des personnes qui ont besoin de la prière ce matin, le ciel est ouvert et le Seigneur veut te toucher. Je vais t'inviter à t'approcher sur le devant. Quel que soit le besoin que tu as besoin de secours, de prière. Je vais t'inviter à t'approcher sur le devant. Amen. Ceux qui sont debout, vous pouvez vous asseoir maintenant, mais priez maintenant. Parlez au Seigneur. Amen. Amen.